VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Crise burundaise, la Belgique est prête à participer à une force d'interposition au Burundi, affirme le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders. Déclaration faite alors que le dialogue inter-burundais brièvement relancé fin décembre est au point mort et que l'Union africaine a renoncé lors de son sommet à Addis Abeba fin janvier à déployer au Burundi la mission africaine de prévention et de protection MAPROBU qu'elle envisageait. On souhaite vraiment pouvoir protéger la population, a souligné le chef de la diplomatie belge dans la nuit de mercredi à jeudi. Il y a trop de violence aujourd'hui au Burundi et trop peu de dialogue, a-t-il ajouté. Au Congo-Brazzaville, les électeurs sont appelés aux urnes le 20 mars 2016 prochain pour le premier tour du scrutin présidentiel. L'opposition qui avait boycotté le référendum pour le changement de la Constitution et vivement contesté la modification du calendrier électoral a finalement décidé de participer aux élections. Pourquoi un tel revirement? Les explications de Pascal Tsati Mabiala, secrétaire général de l'UPADS, parti membre du Front de l'Ordre Constitutionnel et l'Alternance Démocratique, le FOCAD.
Nous allons passer à l'élection présidentielle. Nous allons redoubler de vigilance. Nous allons demander aux nôtres d'être présents dans les bureaux de vote. Et si ce n'est pas pour éliminer totalement la fraude, nous voulons l'atténuer autant que possible. Nous avons fait de grandes mobilisations pendant la campagne référendaire à Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo, à Dolisie, la troisième ville du Congo, ici à Brazzaville, la capitale. Nous avons fait de grandes mobilisations, de grandes équipes. Ensuite, nous avons réussi à boycotter le référendum où à peine 10% sont allés voter. Si nous pouvons capitaliser justement ce rejet actuel, faute d'avoir réussi à arrêter le processus de Monsieur Sassou, nous pouvons, avec le peuple congolais, nous pensons l'obtenir par la voie des urnes, plutôt que de prendre la rue, comme nous l'avons fait.
Pascal Tsati Mabiala, secrétaire général de l'UPADS, parti membre du Front pour l'Ordre Constitutionnel et l'Alternance Démocratique, le FROCAD. Djibouti s'achemine vers une élection présidentielle en avril 2016, mais les rassemblements sont formellement interdits depuis le 25 novembre 2015. En décembre, la police a même ouvert le feu sur les opposants pendant une réunion près de Djibouti. Le député d'opposition Saïd Hussein Roblé, qui est en même temps secrétaire général de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme, a été blessé par balle. Finalement, il a pu sortir clandestinement de son pays pour aller se faire soigner en Europe. On écoute le témoignage de Saïd Hussein Roblé au micro d'Idriss Fall.
Monsieur Hussein Roblé n'a jamais respecté la constitution du pays. Il a modifié seulement l'article qui le concernait en s'octroyant une présidence à vie. Tout le monde le sait, cet accord-là il a été signé entre l'opposition et le gouvernement, mais il est toujours ne respecté aucun accord ni même la constitution du pays même.
Est-ce que des élections sont prévues dans très peu de temps ou bien?
Oui, des élections sont prévues en avril 2016. C'est des élections présidentielles. La dernière, elle a eu lieu en 2011, mais c'est toujours la même histoire. En 2011, il a fallu passer un troisième mandat contre le rejet massif du peuple djiboutien. Et aujourd'hui, nous sommes en quatre mandats, un mandat que jamais le peuple djiboutien lui a octroyé. Sincèrement, ce n'est pas des élections, c'est toujours des mascarades.
Le député Saïd Hussein Roblé, secrétaire général de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme. RDC, le procès Germain Katanga a débuté hier à Kinshasa. L'ancien chef rebelle a comparu avec 6 co-réaccusés devant la haute cour militaire. Les avocats de la défense récusent ce nouveau procès au motif que la justice internationale a déjà tranché dans cette affaire. Les explications de maître Peter Ngomon.
Au regard des documents en notre possession, notamment les différentes ordonnances de la CPI, et il y a notamment un accord ad hoc que le gouvernement aille signer avec la CPI. Dans lequel accord il est dit ceci, que Germain Katanga ne pouvait plus être poursuivi en RDC pour tous les actes commis antérieurement à son transfert à la CPI. Tous les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui sont antérieurs à son transfert à la CPI. Partant des dispositions de l'article 215 de la Constitution qui dit que une fois signé un traité international a une valeur supérieure à notre loi. Nous nous retrouvons devant deux personnes de droit internationale. La RDC, représentée par le ministre de la Justice, et la CPI, représentée par son président. Et cela, conformément aux dispositions de l'article 108 du statut de Rome, c'est-à-dire ne plus poursuivre Germain Katanga.
Maître Peter Ngomo, propos recueillis par nos confrères de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Cour pénale internationale de La Haye, quelques jours après le début du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et du chef de milice Charles Blé Goudé, l'accusation dont le chef de file est la procureure Ma Fatou Bensouda réitère avec force que l'objectif de cette procédure est de faire éclater la vérité pour que justice soit rendue aux victimes et empêcher que d'autres crimes de masse ne soient commis. Mais dans le camp adverse, l'équipe de la défense de Laurent Gbagbo, dirigée par maître Emmanuel Altit, et celle de Charles Blé Goudé, menée par maître Gert Alexandre Noops, fustige le procès, à la fois pour vice de forme et de fond. Pour une analyse de la situation, Modibo Dembélé a contacté maître Amadou Thiolé Diara, avocat au barreau malien.
C'est le procès de la démocratie en Afrique, avec ses balbutiements et les choses qu'on aurait pu régler à l'amiable, aujourd'hui se trouvent à la CPI. Parce que le premier principe de l'organisation de l'Union africaine, c'est le règlement pacifique des conflits. Alors, ce règlement pacifique des conflits, aujourd'hui, est sur le point d'être mis en cause, précisément pour laisser, en fait, tout à cette Cour pénale internationale. Il aurait dû en être autrement. Parce que, deux poids, deux mesures, il est difficile de comprendre que la juridiction nationale ivoirienne ait jugé Simone Gbagbo et que son époux, le président Gbagbo, lui-même se retrouve devant la CPI. C'est ça qu'on n'arrive pas à expliquer.
Que pensez-vous des propos de la défense qui regrette que le rôle des acteurs extérieurs à la crise ivoirienne, notamment la France et le Burkina Faso, ne soit pas abordé?
Le président Laurent Gbagbo, quand il a senti qu'il a été défait par ses forces, il s'est, si vous voulez, barricadé dans son bunker et mitigé effectivement l'intervention de la France. Nous n'en serions pas là aujourd'hui.
D'aucuns accusent la Cour pénale internationale de s'acharner contre les dirigeants africains. En tant qu'avocat, que répondez-vous à ces allégations?
Ils n'ont pas tout à fait tort. Depuis 1998, nous avons même plaidé à l'occasion des différentes séances DID ici pour que le Mali ratifie le traité de Rome. Parce qu'on avait pensé que la CPI aurait eu une influence dissuasive. Mais aujourd'hui, avec le tournant que ça a pris, tout le monde a le sentiment aujourd'hui qu'en fait, elle est dirigée contre les Africains seulement, uniquement les Africains. Est-ce que la CPI va se ressaisir? La question est là.
Maître Amadou Thiolé Diara, avocat au barreau malien. On passe maintenant au sport en Afrique. Le championnat d'Afrique des Nations 2016 au Rwanda. La deuxième demi-finale aura lieu aujourd'hui. Ce sera un choc 100% ouest-africain entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Les éléphants partent favoris, mais le Mali reste une équipe dont il faut se méfier. Hier, au stade Amahoro de Kigali, le match a tenu ses promesses. Les léopards de la RDC et le Sili National n'ont pu se départager pendant le temps réglementaire qui s'est achevé 1-1. Les Léopards l'ont emporté au titre, au tir au but. Réaction de Florent Mbengue, sélectionneur des Léopards.
On avait promis de mettre énormément de rythme. On ne l'a pas fait. Enfin, ils nous ont endormis, les Guinéens. Ils sont arrivés en mettant un faux rythme. Et nous, on est rentrés là-dedans alors qu'on avait prévu de mettre beaucoup de rythme. Et après, quand on rentre dans le faux rythme, c'est difficile après de rechanger. Donc voilà, ma voix a été perdue à la mi-temps. Je voulais qu'on les étouffe vraiment complètement et qu'on puisse justement, en les étouffant au milieu de terrain, repartir sur des contre-attaques. Mais maintenant, on a eu... on a aussi des belles opportunités, mais quand j'entends tout le monde, on dirait que notre équipe est super mature, mais on n'a que 5 matchs officiels. Cette équipe-là n'a que 5 matchs officiels, avec des gamins qui sont là, comme Mécha, qui n'a que 20 ans. Donc, si vous lui donnez un petit peu plus d'expérience, aujourd'hui, il peut marquer 4 ou 5 buts.
Maintenant, la réaction de Lapé Bangoura, entraîneur de la Guinée.
Quand vous faites match nul, c'est pas une défaite. Après, il faut un vainqueur. Il est désigné au tir au but. On sait que c'est une cruelle épreuve. Malheureusement, si elle nous avait souri lors de la rencontre contre la Zambie, aujourd'hui, elle ne nous a pas souri avec des jeunes joueurs face à une équipe beaucoup plus expérimentée. Je pense que c'est ce qui a fait la différence. Cette équipe du Sili local est venue pour apprendre des choses. En plus d'apprendre des choses, elle a fait des performances en arrivant en demi-finale.
Voilà, c'était Lapé Bangoura, l'entraîneur de la Guinée. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.